Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, nous évoquons un sujet réclamé par plusieurs auditeurs. Comment élever ses enfants dans une relative harmonie quand on est un couple séparé? Le divorce, c'est certes banalisé socialement, mais son lot de conflits provoque souvent des règles contradictoires pour l'enfant. Alors comment l'aider à conserver ses repères, à surmonter la fracture familiale? Comment gérer les allers-retours aussi entre ses deux parents? Nous allons en discuter avec vous, Noureddine Benzora, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et thérapeute familial et vous publiez L'art d'être des parents séparés. Nous serons également en ligne avec le psychologue Jérémy Compaoré à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et bien sûr, les voisins, si vous êtes dans cette situation ou si vous avez vous-même grandi avec des parents séparés, divorcés, nous attendons vos témoignages et vos questions en tant que parents. 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71. Et bien sûr, tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Noureddine Benzora, près d'un couple sur deux divorce en région parisienne aujourd'hui en France. Ça ne tient pas compte des unions hors mariage. La banalisation du divorce ces dernières années contribue-t-elle finalement à pacifier la rupture ?
Je ne crois pas. Hein, c'est pas parce que c'est plus simple que ça va pacifier les relations et toute séparation en général est amenée à créer un conflit. Très rare, très peu de couples se séparent dans le calme et la sérénité. Et c'est sur ce conflit-là qu'on s'est un peu interrogé et sur la répercussion sur les enfants. C'est ça notre intérêt, en tous les cas, pour ce livre.
Il y a une forme de fin de culpabilité d'un point de vue social. On n'est plus montré du doigt quand on est divorcé. On n'est plus un mauvais père ou une mauvaise mère parce qu'on est divorcé aujourd'hui.
Tout à fait. Autrefois, il y avait quand même le poids de la religion, hein, puisqu'il était pas admissible de divorcer. Aujourd'hui, c'est vrai que il y a cette, entre guillemets, liberté de divorcer qui fait que les choses sont plus admise, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'enfants qui vont quelque part en pâtir. Et c'est tout un travail de deuil pour ces enfants et pour les couples pour passer à autre chose.
Le deuil d'avoir ces deux parents ensemble. Je vous propose d'écouter le témoignage de Stéphanie, 36 ans. Elle est éleveuse dans le département de la Manche, au nord-ouest de la France. Elle est la maman de Karl, 8 ans, dont elle est séparée du papa depuis 5 ans. Donc son fils avait donc 3 ans. Reportage dans sa maison en pleine campagne normande, la veille des vacances scolaires, au micro d'Alice Milot.
Je t'ai mis dedans une paire de chaussettes, la chemise rouge à carreaux, un pull gris. Tu pourras garder le petit débardeur, il peut faire 2 jours là, celui que tu as sur toi. Pantalon, basket et surtout donc pyjama pour chez Lily. Et tout rentre. Tac.
Là, vous avez préparé son sac pour partir chez son père ?
Oui, parce que c'est le dernier jour de la période scolaire, donc c'est la veille des vacances scolaires, et en général, il passe toutes ses vacances chez son papa. Et d'habitude, en fait, je lui donne pas de sac, parce que son papa a une garde-robe pour lui, et quand Karl il passe d'un parent à un autre, il a juste les vêtements qu'il porte sur lui, il a tout en double là-bas.
Il part avec une toute petite valise.
Il part avec un mini sac à dos dans lequel j'arrive même pas à faire rentrer une paire de baskets. Et puis il faudra que tu mettes un manteau quand même, parce qu'on est en hiver. Je me suis séparée de son papa quand il avait 1 an et demi. Notre séparation, elle est due à des objectifs de vie différents, parce que moi je voulais venir vivre à la campagne alors que son papa gardait une activité parisienne. Donc actuellement on vit à 300 km de différence. Karl vit à l'année avec moi, dans une vie plutôt, plutôt rurale et campagnarde. Et notre fils a un lien très très fort avec son papa. Mais la distance fait qu'il peut pas y aller un week-end sur deux, il peut pas y aller une semaine sur deux, il peut y aller que aux vacances scolaires. Et comme donc je m'entends toujours bien avec son papa vient souvent un week-end ou 3-4 jours chez nous, dans ma nouvelle maison avec mon nouveau conjoint, pour profiter de son fils et puis pour créer un petit peu de lien entre tout ça, que Karl puisse voir que son papa s'intéresse à sa scolarité. C'est souvent l'occasion de prendre rendez-vous avec l'instituteur pour faire un petit bilan, voir si tout va bien. Que Karl voit bien à quel point on se parle pour avoir la même perception des choses et qu'il puisse pas nous raconter des bobards ou essayer de nous instrumentaliser sur des petites broutilles.
Il a été habitué à la séparation très tôt, du coup c'est quelque chose qu'il a toujours bien vécu. Il vous a jamais reproché de vous être séparés?
Il ne nous a connus que séparés, mais harmonieux et bien dans nos baskets. Donc en fait, ça nous fait même rigoler parfois quand il rentre de vacances. Je lui demande, bon alors, ton papa, il a plus d'amoureuse alors, mais faudrait qu'on lui trouve une amoureuse. Ça montre à quel point aussi dans la tête d'un enfant de 8 ans en 2016, c'est naturel d'avoir des parents séparés. Il se sent pas du tout marginal par rapport à ses potes. Il n'a pas eu l'impression d'un dysfonctionnement où il ressent pas de disharmonie.
C'est pas vrai, elle a encore oublié sa baguette.
Eh ben, on met ça dans ton parcours, ça va être magique. Ah, il y avait une lecture à faire quand même.
Bon, c'est...
Et tu l'as faite?
Bah oui, je l'ai fait sans.
Moi, je trouve que des avantages à cette situation, être des parents séparés. Ça m'épanouit totalement, au point que je pourrais même pas envisager de vivre avec le père de mon enfant. Et que je pourrais même pas envisager non plus d'avoir un enfant avec le mec avec qui je vis, parce que... On l'aurait tout le temps, à plein temps, et je trouverais ça affreusement étouffant. Je crois pas que je supporterais. J'adore me sentir légère la veille des vacances scolaires en me disant « Ouais, c'est le dernier jour où je l'ai à partir de ce soir, c'est la liberté !» Il n'y a plus besoin de faire des courses, il n'y a plus besoin de remplir le frigo, il n'y a plus besoin de regarder l'heure pour les horaires d'école. Quand Karl n'est pas là, je retrouve une vie sociale un peu plus adolescente, c'est-à-dire que je m'autorise à aller boire des coups et dîner chez des gens à l'improviste, sans être tenue par les horaires de l'école ou le fait qu'il faille se coucher tôt parce qu'il y a école le lendemain. Mais je trouve qu'avoir un enfant, oui, on doit tellement s'oublier et se faire passer en second que j'ai pas assez d'abnégation pour pouvoir le faire à plein temps, 365 jours par an. Et c'est toujours aussi un plaisir quand il revient après 2 semaines ou après 2 mois de le retrouver et de constater aussi, ah, il a fait des progrès en langage, ah, dis donc, il sait enfin faire ses lacets, il a fait vachement de progrès grâce à sa grand-mère et à son père. D'avoir des tranches de séparation comme ça, je trouve ça salutaire, je trouve ça sain, je trouve que c'est épanouissant pour nous deux.
Vous ne vous sentez pas coupable quand vous dites ça?
Ah non, j'ai aucune culpabilité. Je culpabiliserais si je l'envoyais dans un univers paternel dans lequel je sais qu'il ne va pas être bien dans ses baskets. En me disant, oh là là, je l'abandonne avec sa vieille grand-mère acariâtre et son père qui est trop sévère, à qui je ne parle plus depuis des années. Là, je culpabiliserais. C'est une libération super géniale.
C'est-à-dire que vous conseilleriez finalement à tous les parents de se séparer alors?
Ah, ou l'inverse, je conseillerais peut-être de faire des enfants avec quelqu'un avec qui on ne compte pas vivre jusqu'à la fin de ses jours. Et d'autant que les critères de sélection d'un papa ou d'un amoureux sont pas les mêmes, on n'attend pas les mêmes choses. Donc ça me paraît pas incompatible de choisir quelqu'un pour faire un enfant et puis d'être super content de son choix en disant bah, c'est vraiment le père idéal. Et puis de choisir un autre type d'homme pour être son amoureux idéal jusqu'à la fin des temps.
7 milliards de voisins, on est ensemble. Et puis on va se parler, on va se dire la vérité.
Noureddine Benzora, vous qui êtes psychiatre et thérapeute familial, que vous inspire ce genre de témoignage, vous qui écrivez sur le divorce?
Ben écoutez, l'art d'être des parents séparés, là, Stéphanie a trouvé, hein, l'art c'est aussi quelque chose de l'ordre de la créativité, a trouvé la meilleure recette pour vivre en harmonie avec son fils et son ex. Et je trouve que c'est quand même une bonne chose, malgré la distance, que ce papa garde quand même un lien avec son fils. Alors c'est vrai qu'on préférait que le lien reste permanent avec son enfant, mais bon, vu les circonstances, vu que le couple n'a pas pu continuer dans l'harmonie, je trouve que quand même Stéphanie avec Karl en trouvait et le papa en trouvait une bonne la bonne recette, la bonne harmonie. Ça ne veut pas dire que c'est toujours simple, mais bon, je trouve qu'ils s'en sortent pas si mal que ça.
Pour les enfants, vous diriez que ça se passe globalement mieux qu'autrefois, tout de même, ou pas?
Alors, il est certain qu'autrefois, les enfants se sentaient quelque part un petit peu isolés. Mais vu la fréquence des divorces, on voit les copains en classe qui, eux aussi, ont des parents qui se sont séparés, la chose est devenue banalisée. Mais ça n'enlève en rien la douleur, le fait de faire, comme je disais tout à l'heure, le deuil du couple des parents. Ça, c'est un mécanisme nécessaire pour passer à autre chose.
Quelles sont les tranches d'âge les plus vulnérables pour les enfants?
Alors, quand on me pose cette question-là, moi, je pense que tous sont touchés à des degrés divers. Alors, autant un adolescent va être touché parce qu'il est dans une phase où il est entre guillemets entre enfant et adulte, et puis le tout petit, qu'on croit ne rien savoir de ce qui se passe, les enfants ressentent, je dis souvent que les enfants sont comme des éponges, il va ressentir l'ambiance, il va peut-être pas se souvenir des événements, mais il a quelque chose qu'il va garder au fond de lui. Mais c'est pas pour autant que ça va être un traumatisme à vie. Hein. Je crois que ce qui est...
Et surtout, les enfants ne verbalisent pas, donc ne verbalisent pas la plainte non
Alors,
plus.
Alors, ils la verbalisent autrement. Ceux qui ne parlent pas, ils l'expriment, vous savez, par des troubles du sommeil, par des troubles alimentaires, par l'agressivité, le comportement. On attaque le petit copain à la crèche, etc. Donc, il y a quand même... c'est une manifestation qu'il faut comprendre, nous, adultes, comme étant une souffrance.
Je vous lis le témoignage de Julien Bobo-Dioulasso, qui nous dit que c'est très difficile de gérer ses enfants lorsqu'on est en plein divorce. Cela demande beaucoup de maturité de la part des adultes.
Je suis d'accord sur le mot « maturité ». C'est vrai qu'il faut quand même, je dis souvent qu'il faut se décentrer de la problématique conjugale pour s'occuper de ses enfants. Quand on est pris dans le feu du conflit, ce n'est pas possible d'être disponible pour s'occuper de ses enfants.
Vous nous parliez de la douleur d'enfants, de parents divorcés, d'enfants jeunes. Binti à Dakar nous dit « Mes parents ont divorcé quand j'étais au lycée, donc en seconde. Heureusement, ils ont pu faire la part des choses, ont réussi à mettre leurs problèmes de côté pour s'investir dans mon éducation. » Mais bien sûr, le fait qu'ils ne soient plus ensemble m'a beaucoup affectée et j'aimerais encore maintenant les voir réunis. Est-ce que ce fantasme-là de l'enfant, quel que soit son âge, qu'il soit adolescent, perdure finalement ? Et s'ils revenaient ensemble ?
Eh oui, ça ne les quitte pas. Même, vous savez, j'ai rencontré des enfants, des fratries même, où c'était insupportable, les assiettes volées, les portes claquées, et ils n'en pouvaient plus. Ils avaient envie d'une seule chose, que les parents se quittent, mais en même temps, ils étaient tristes parce qu'ils disaient « les parents ne vont plus être ensemble ». Et ça ne quitte pas l'enfant, même jeune adulte ou plus tard, d'imaginer que ses parents peuvent revenir ensemble.
Le message de Kofi à Lomé au Togo est édifiant. Il nous dit « Étant enfant de parents divorcés, je n'ai jamais souhaité avoir d'enfants et voir mon couple se séparer. »
Alors, c'est pour ça que j'ai dit finalement, il faut faire le deuil de tout ça, parce que quand on garde tout ça pour soi, il est certain qu'il y a un moment de la vie, vous savez, le passé, même quand on veut l'oublier, il rattrape. Et souvent, c'est quand les gens plus âgés, jeunes adultes, vont rencontrer quelqu'un, au moment où ils vont être amenés à avoir une relation avec une femme ou un homme, vont être confrontés à cette blessure qui va quelque part se réouvrir et les confronter à ces moments très douloureux de leur enfance.
Alors, il y a un chapitre dans votre livre que j'aime bien, qui est tout à la fin du livre, qui s'appelle « Ce qu'on ne dit pas ». Parce que c'est vrai que, bien sûr, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut conserver un espace de neutralité éducative pour l'enfant, mais il y a tout de même des choses qui vont perturber cette bonne volonté de la part des deux parents au moment du divorce et après ensuite.
Tout à fait. Bien sûr, souvent, le moment où les conflits sont vraiment au top, comme on dit, c'est très difficile. Les parents sont complètement accaparés par l'idée qu'on ne peut pas facilement s'occuper des enfants. Et les enfants le ressentent. C'est-à-dire que les parents sont présents physiquement et absents psychiquement.
C'est ça. Et surtout, vous dites, l'argent, en fait, est le vrai nerf de la guerre.
Bien sûr, comme vous le savez, comme on le souligne, quand on divorce, ça appauvrit le couple, les familles, puisque chacun en va revendre la maison, on va se retrouver avec quand même moins d'argent. Ça appauvrit, ça on le sait, et ça pose un autre problème, parce que les enfants ne sont pas confrontés à ce genre de situation. Autant les adultes peuvent le comprendre, mais les enfants ne comprennent pas pourquoi.
Ça interfère très clairement dans la vision de l'éducation aussi des enfants.
Tout à fait. Et puis, d'ailleurs, certains enfants utilisent ça comme moyen de manipulation. « Eh bien, je vais vivre avec papa, puisque tu ne peux pas me payer telle ou telle console. »
La valeur symbolique de la maison, vous le disiez, dans ces cas-là, on change de résidence, on change d'habitat.
Alors ça dépend des situations. Il y a de rares exceptions où les enfants, on les laisse dans le même appartement ou dans la même maison et on va s'alterner une semaine sur l'autre. Mais c'est rare et ça ne peut durer qu'un certain moment. À partir du moment où il y a un nouveau venu chez un des deux parents, les choses sont un peu plus compliquées.
Globalement, aujourd'hui, on ne parle plus tellement de garde d'enfants, mais de résidence. Il faut dire qu'il y a eu la loi en France de 2002 qui consacre désormais le principe de coparentalité père-mère. après la séparation. Hein. D'ailleurs, les écoles doivent envoyer les bulletins scolaires au père et à la mère, hein. même divorcés. La résidence des enfants est dans 77% des cas, néanmoins fixée chez la mère. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Alors, je vais vous dire une chose. Une chose est certaine, c'est que les choses ont un peu changé. Ce qui a changé, c'est que c'est vrai qu'on est un peu plus, les juges sont plus enclins à partager la résidence, hein, puisque c'est le terme, vous avez raison de le souligner, la résidence, avoir plus de résidences alternées, mais qui nécessitent quand même certaines conditions. Il faut que le climat soit calme, je veux dire qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas eu de violence, parce que ce n'est pas tellement conseillé, que géographiquement les lieux de résidence ne soient pas loin, qu'il y ait bien sûr la même école, et puis pas de grande différence aussi éducative. Je pense que c'est un peu plus, je dirais, à la mode d'offrir ce genre d'alternative aux enfants entre leurs deux parents. C'est-à-dire que ça peut permettre de maintenir quand même le lien avec les deux parents. Mais bon, sinon, je veux dire, parfois, le classique schéma de passer un week-end sur deux ou la moitié des vacances avec l'un des deux parents, quand il est bien organisé, ça maintient quand même le lien.
Oui, mais sur ces variations éducatives, qu'est-ce que vous observez, vous, de
alors,
votre côté ?
Écoutez, ça a fait, couler beaucoup d'encre, surtout à propos de la résidence alternée, où il y avait des gens qui étaient un peu pour et des gens contre. Moi, je ne tranche pas. Je dis que c'est chaque famille... chaque situation correspond à un schéma qu'on ne peut pas organiser comme ça d'emblée en disant cela, c'est la résidence. Je pense qu'il faut adapter les familles, les mentalités et surtout à savoir qu'est-ce qu'ils veulent eux aussi.
Mais enfin bon, vous citez quand même pas mal de témoignages dans votre livre. Alors qu'est-ce que vous observez sur le terrain, concrètement ?
Alors, oui, sur le terrain, les gens sont quand même, je vais vous dire une chose, ça dépend. Si on est dans le conflit, chacun va essayer de tirer la couverture vers lui. Et que des fois même, il y a des exigences qui ne relèvent plus de vouloir faire du bien à ses enfants, mais qui est une forme d'attaque. Alors ça, c'est la situation de conflit. Mais quand on est en dehors du conflit, chacun veut avoir quand même ses parents, ses enfants pour soi.
Et sur les variations éducatives, vous n'avez pas répondu à ma question. Un père trop laxiste, une mère qui veut être plus ferme, ou l'inverse d'ailleurs.
Tout à fait.
Un enfant qui manipule, qui sait manier l'art du
bien
chantage,
sûr.
Parce que en réalité, il profite d'une situation qui lui est défavorable néanmoins.
Bien sûr. D'autant plus qu'on passe d'une situation où on va passer à une situation où on fait tout seul ce qu'on faisait à deux, déjà. Alors donc, du coup, les enfants manipulent par moments les parents parce que ça vient du fait que les parents, la plupart du temps, sont culpabilisés. Qu'on le veuille ou pas, les deux le sont. Ceux qui sont quittés et ceux qui ont quitté. Donc la culpabilité fait que les enfants, parfois, utilisent ce mode de relation.
Vous pensez à des exemples précis là,
Absolument, oui. C'est l'enfant qui a 17 ans, les parents se sont séparés, il est en terminale, il a lâché ses études, les parents sont malheureux, culpabilisent parce que leur fils a lâché les études. Alors ils lui demandent de trouver du travail, et quelques temps après, il vient vers eux en leur disant, écoutez, moi j'ai besoin quand même pour avoir un véhicule travailler, que vous me donniez de l'argent. Ils lui ont donné chacun 1000 euros pour s'acheter un petit véhicule pour travailler. Quelques temps après, ses sœurs sont venues raconter aux parents que finalement cet argent a servi à un voyage outre-Atlantique. C'était sa façon un peu de se venger de ses parents.
Oui, d'où la nécessité peut-être de dialoguer sur les règles communes. Enfin, c'est pas simple, d'autant plus quand il y a des comptes à régler aussi dans l'ex-couple.
Mais bien sûr, on est d'accord. Et vous savez, le problème je voulais revenir sur la résidence alternée parce qu'on en parle beaucoup, il est certain qu'il ne faut pas quand même qu'il y ait une grande différence éducative. C'est vrai que quand on a été couple, et on est censé avoir la même éducation pour les enfants, mais des fois, quand on se sépare, on se trouve dans des situations où ce schéma ne peut plus...
Et ces divergences apparaissent criantes. On va en parler. Vous restez avec nous, Noureddine Benzora. Comment rester un éducateur quand on est parent séparé ou divorcé ? On en parle aujourd'hui. Nous serons aussi en ligne avec Jérémy Compaoré, psychologue à Ouagadougou, juste après le flash. Les voisins et les voisines, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Retourne en 3 minutes.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins et des enfants au cœur du divorce. Alors comment élever ses enfants dans une harmonie quand on est un couple séparé? Le divorce et son lot de conflits provoquent souvent des règles contradictoires pour l'enfant. Vous nous le disiez, Noureddine Benzora, vous êtes psychiatre et thérapeute familial et vous publiez L'art d'être des parents séparés. Vous me disiez pendant le flash, il faut absolument éviter que l'enfant se transforme en messager de ses parents parce que ça ne va pas faciliter une éducation conjointe.
Bien sûr, l'enfant n'a pas écouté les histoires des grands. On ne peut pas prendre son enfant comme un copain ou une copine à qui on peut raconter des histoires qui concernent ses parents. Ça le met mal à l'aise et que c'est contre-productif et ce n'est pas très éducatif. Donc, si on a parlé à l'autre conjoint aussi, je pense qu'il ne faut pas passer par l'enfant. Et on peut trouver toujours des intermédiaires ou des amis neutres ou Internet ou en tous les cas des moyens, dans la mesure du possible, si le conflit est trop et au maximum et qu'on veut éviter des injures ou des insultes ou des
donc on évite la phrase « dis à ton père, dis à ta mère ».
Exactement.
C'est ça, la phrase à bannir.
Voilà. Parce que les enfants vont se saisir aussi de cela. Ça les parentifie à un certain moment et ils auront l'impression que quelque part ils vont jouer un rôle de grand et que ce n'est pas leur rôle, ils ont à être des enfants.
Y compris s'ils sont adolescents.
Y compris quand ils sont adolescents.
Nous donnons la parole à des auditeurs, bien sûr, vos appels au 33 1 84 22 71 71. On accueille Luc qui est à Cotonou au Bénin. Bonjour Luc.
Bonjour Emmanuel.
Luc, alors vous n'êtes pas parent, mais vous êtes enfant d'un couple divorcé.
Bien sûr Emmanuel.
Oui, vous avez 23 ans. Hein.
Allô?
Oui, parlez bien devant le téléphone, j'ai l'impression que vous avez mis le haut-parleur, il faut l'éteindre si vous avez mis un haut-parleur,
oui,
Luc.
Non, viens la ligne, en place.
Alors, on ne vous entend pas du tout. Est-ce que vous parlez peut-être dans un avec des oreillettes, non? On vous entend très mal, Luc.
Oui, c'est bon. Allô, c'est
oui.
Bon.
Allez-y.
D'accord. Je disais tantôt que je m'appelle Luc Panabame depuis le Bénin. Ça fait bien 23 ans que ma maman a quitté mon papa parce que les problèmes étaient de trop. Elle n'en pouvait plus. Elle a choisi de quitter le couple et elle nous a relogé auprès de notre grand-mère. Et c'est là, moi, je suis grandi. J'ai reçu toute mon éducation de la mère de ma grand-mère.
C'est
j'ai tout eu d'elle.
Vous avez été élevé par votre grand-mère maternelle. En fait, vous n'avez pratiquement pas connu vos parents ensemble, si j'ai bien compris.
C'est bien ça, Emmanuel. Donc, et je disais tantôt, dans la maison, on était même plus de 7 enfants. Donc l'éducation n'était pas du tout facile. C'est-à-dire, chacun s'exerçait à bien acquérir son éducation. Ce n'était pas du tout ce qu'on disait. Et c'est grâce à la polyvalence de ma grand-mère. Je ne sais pas comment expliquer, mais nous sommes arrivés à tirer notre épée du jeu et aujourd'hui nous ne sommes pas des bandits, nous ne sommes pas dans les rues, nous ne circulons pas dans des endroits compliqués ou bien des choses qu'on pouvait imaginer de nous.
Oui.
On était beaucoup à vivre.
C'est votre grand-mère maternelle qui a sauvé la fratrie, les 7 enfants de cette forme de confusion finalement qui régnait à l'issue de la séparation de vos parents. C'est ça, Luc, hein?
Bien sûr.
Merci Luc de nous avoir appelé. Bravo pour la polyvalence de la grand-mère.
Ouais, bravo, oui.
D'autres messages. Alors, bien sûr, vous continuez de nous appeler. On parle finalement de la difficulté de rester un éducateur quand on est un parent séparé ou divorcé. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Abdelaziz est à Cotonou également. Il envoie un autre message. Lorsque les parents ne sont plus ensemble, l'éducation des enfants est compromise. Il se sent moins aimé, ne grandit plus de la la même manière. Et parfois, c'est la grand-mère paternelle qui se charge de l'éducation traditionnelle de l'enfant. C'est bien, mais ça ne remplace pas des parents. Voilà. Ou Charles, encore à Bujumbura, au Burundi, nous dit « Avant de se soucier de l'éducation des enfants de parents séparés, il faut parler de leur survie. La société actuelle fait qu'une bonne éducation est très difficile, quelle que soit ta situation. Et heureusement, les grands-parents sont très présents, assurent l'avenir des enfants lorsque les parents ne le font plus. J'ai pitié de ces enfants car ils sont de plus en plus nombreux et la vie est parfois compliquée pour eux. » Je voudrais, alors, peut-être un mot de réaction, Noureddine Benzora.
Bien sûr, il faut féliciter toutes ces grands-mères qui prennent un peu cette place importante et qui vont essayer d'apporter ce que malheureusement les parents n'ont pas pu faire et trianguler, c'est ce qu'on dit nous, trianguler, c'est-à-dire que l'enfant a besoin de cette espèce de triangle où il a, à défaut d'avoir papa et maman, d'avoir une grand-mère et la maman dans ces cas-là. Bravo. Oui.
Nous donnons la parole à un psychologue à Ouagadougou, au Burkina Faso. Bonjour Jérémy Compaoré.
Oui, bonjour Emmanuel.
Jérémy Compaoré, vous intervenez... Vous intervenez souvent dans les écoles. Dites-nous un petit peu quelles sont aujourd'hui les situations familiales des parents, des enfants que vous rencontrez.
Alors, ce sont des enfants en difficulté. Et c'est lié justement, comme vous le dites, pour la plupart des cas, donc à la séparation des parents. Et moi, je m'intéresse beaucoup donc aux difficultés liées à la gestion de la sexualité. Bien sûr, il y a un problème de rendement scolaire qui se pose, puisque en termes d'éducation à la maison, les valeurs du suivi que l'enfant devrait avoir n'est plus le même que quand les parents étaient tous deux présents. Et donc, parlant donc de la répercussion sur le plan de la sexualité, voilà, il y a beaucoup de problèmes qui se posent.
À quoi vous pensez exactement?
Voilà, et c'est le phénomène des grossesses non désirées. Parce que les enfants, pour souvent pallier au manque à gagner de l'un des parents, rapidement, ils se lancent dans des relations écorce avec les copains et les copines. Et ça finit donc par les désenchanter avec les grossesses non désirées.
Vous voulez dire, Jérémy Compaoré, qu'il y a une forme de carence affective, en fait, de la part de ces enfants dont les parents sont séparés?
Exactement. Ça devient, au lieu que l'enfant ait deux béquilles, il a une béquille et il faut rechercher l'autre béquille avec les camarades.
Est-ce que vous observez une explosion des familles monoparentales dans une ville comme Ouagadougou ou pas spécialement? Alors, on n'a pas de statistiques réellement sur le sujet. Hein.
Il y a beaucoup de divorces qui se font, mais il faut dire que le divorce, en parlant des mariages au niveau de l'état civil, mais beaucoup de couples ici sont des unions libres qui aussi sont souvent, qui débouchent par des divorces, des séparations. Mais beaucoup de couples monoparentales ici sont liés, en fait, les filles-mères, si vous voulez.
Oui, c'est ça.
Les gens qui ne sont pas mariés, mais qui se retrouvent à des deuxièmes bureaux. Il y a des hommes qui ont deux femmes, mais pas une autre femme.
C'est ça. Donc des enfants qui naissent de relations extra-conjugales et donc qui naissent, non pas d'un couple, mais d'un père et d'une mère qui n'ont jamais fait couple, là, pour le coup.
Exactement. Et donc l'enfant vit avec un seul parent. Et là, c'est ça, ça prend de l'ampleur. Et comme je l'ai dit, c'est pour les élèves maintenant, bien sûr, il y a beaucoup de filles-mères élèves. Donc, leur enfant se retrouve dans une situation de monoparentalité. Et encore pire, le plus souvent, c'est des enfants qu'on arrache quand on veut aider la mère à continuer ses études,
ouais.
L'élève à continuer. Donc, on sépare l'enfant de la mère. Et donc là, c'est le plus souvent les grands-parents qui accompagnent l'enfant.
Jérémy Compaoré, vous êtes psychologue, c'est l'occasion peut-être de lancer un message. Est-ce que vous avez l'impression que des professionnels de l'enfance comme vous sont entendus sur la façon dont vous voyez la situation et sur peut-être les remèdes à y apporter?
Je pense qu'au vu des causes de ces situations, pour pouvoir résoudre le problème, d'abord, si les gens, avant de fonder leur foyer, peuvent bien faire le choix amoureux, je dirais, ou bien se faire accompagner avant le mariage. Il faut une préparation au mariage, une préparation psychologique, un soutien auprès des conseillers conjugaux. Et ensuite, dans les couples, toujours se faire accompagner pour éviter qu'on en arrive à des séparations. Maintenant, pour les couples séparés avec les enfants qu'on a, il faut que les parents, justement, se fassent accompagner dans l'apprentissage, comment éduquer sur son enfant.
Mmh, mmh. Les couples aujourd'hui manquent, je ne sais pas si c'est votre constatation aussi, Noureddine Benzora, manquent d'accompagnement conjugal ou post-conjugal quand le couple ne peut plus se faire.
Écoutez, je pense qu'il ne manque pas d'être justement encadré ou aidé. Je pense que quand on est dans le conflit, on ne pense pas à ce genre de situation où on les évite, ou parfois, dans des couples, il y a une demande de l'un, mais pas de l'autre, parce qu'il n'a pas envie de s'exposer ou d'exposer sa situation. Donc, je pense que les aides ne manquent pas, sauf qu'il faut le vouloir. Pour revenir justement aux familles monoparentales, comme ça, en Afrique, en tout cas, le peu d'expérience que j'ai, je pensais à une famille un peu sénégalaise où le papa était parti vivre avec une autre femme. Il a habité juste en face de la première femme avec les enfants, et parce qu'il y a le problème matériel, où la première épouse souffrait du manque d'apport et manque d'argent, etc. Alors que lui vivait avec cette femme, avec de nouveaux enfants, dans une aisance qui ne correspondait pas du tout à la première. Donc, c'est des situations...
On en revient aux difficultés économiques.
Matérielles, oui.
Jérémy Compaoré, un mot de conclusion ?
Alors, je dirais que nous déplorons ce que les enfants vivent, et pour un bon avenir des enfants, il faut que les parents assument leurs responsabilités. Les enfants n'ont pas toujours et ils n'ont jamais demandé à naître. Ce sont les parents, par leur comportement, qui les mettent au monde. Et il faut assumer cette responsabilité, souvent en ayant en tête l'arrivée de ces enfants dans leurs relations conjugales, pour éviter certains problèmes. Et quand on se sépare, on travaille aussi à ne pas justement déporter leur crise conjugale sur les enfants, mais fait plus pour que l'enfant.
Ouais. Merci d'avoir été en ligne avec nous, Jérémy Compaoré. Une voisine nous appelle de région parisienne au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Suzanne.
Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à votre invité, bonjour aux voisins.
Soyez la bienvenue, on vous écoute.
Merci. Oui, en fait, moi je voulais témoigner pour tous ceux qui sont dans mon cas. Donc je suis enfant de parents divorcés et j'ai un papa camerounais, une maman française. Mmh. Et j'ai été baladée entre les deux pays, les deux continents, donc c'est extrêmement difficile. Ça a été très difficile d'être entre les mains de belle-mère, d'autres personnes, de membres de la famille, d'avoir cette distance, de ne pas pouvoir voir l'autre parent quand je voulais. Et puis surtout qu'il y a un parent qui a fui son ex-conjoint, donc qui ne nous donnait plus de nouvelles. Donc je voulais souligner le rôle de ma grand-mère maternelle, qui a été super important pour garder le lien avec ma famille maternelle. Et aujourd'hui, j'ai 56 ans, je suis parent, et ça a été très compliqué, ça reste une blessure, parce qu'avant de vous avoir, j'étais en larmes.
Oui.
Je me suis un peu calmée, et parce que quand on devient soi-même parent, on n'a même pas les références de relations enfants-parents. Donc on est...
Parce que vos parents se sont séparés, vous étiez très jeune, Suzanne ?
J'étais très jeune, oui.
Vous aviez quel âge ?
Je ne pourrais même pas vous dire. Là, pour moi, j'avais moins de 6 ans. Donc j'ai vécu d'une part avec ma mère, d'une part avec mon père. J'ai fait des choses avec l'un, choses avec l'autre. J'ai vu ma mère pleurer sans explication. Donc c'est autant d'images que je garde, que je n'ai jamais abordées vraiment avec ma maman, qui est toujours en vie. Mon papa est décédé. Et puis,
deux univers d'éducation complètement différents.
Complètement différents. Ah ben oui, parce que quand j'ai vécu au Cameroun, j'étais pas du tout ni dans le milieu français, ni en lien avec la France. Là, j'étais avec mon papa, remariée avec des belles-mères, des demi-frères et sœurs. Puis quand je suis venue en France, ben, je me suis heurtée à ma mère qui m'a dit « Si ton père s'occupe pas de toi, tu travailles, tu fais comment ?» Ça n'avait rien à voir avec une éducation africaine où on élève ses enfants, on les porte jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Donc, et je pense qu'elle mettait sur notre dos les griefs qu'elle avait avec son ancien mari. Donc ça a été très compliqué, c'est resté très compliqué. Mais je voulais souligner le rôle des grands-parents, parce que ma grand-mère maternelle nous a toujours écrit, a toujours essayé de nous contacter malgré la distance. Et quand je suis arrivée, c'est elle qui m'a accueillie, c'est elle qui a été mon lien et mon réconfort. Et en tant qu'adulte et que parent moi-même, ça a été très compliqué d'élever mes enfants, notamment mon premier enfant, parce qu'il avait des réactions que je ne comprenais pas. Et mon mari me disait, mais c'est normal, parce que lui a grandi dans une famille normale, pas divorcée. Et moi, je n'avais pas cette expérience de choc entre parents-enfants, de conflits. Voilà. Vous et je voulais témoigner pour tous ces enfants de continents différents, que les adultes soient conscients.
Il y a le divorce, plus effectivement
la confrontation
culturelle. Oui, tout à fait.
Où on voit souvent, et on le souligne, quand il y a comme ça des ruptures dans des couples dits mixtes, hein, puisqu'on c'est le terme adapté, il y a une confrontation où chacun essaye de retirer l'enfant de la culture de l'autre. Souvent, on le voit. Et donc là, dans votre exemple, Suzanne, vous êtes dans cette situation-là où, comme si votre mère ne vous reconnaissait pas dans la culture de l'autre parent. Et heureusement, et il faut remercier votre grand-mère qui a quand même gardé le lien, parce que c'est ça qui est important, le lien qui vous a permis un petit peu de vous accrocher à quelque chose qui était fort pour vous structurer.
Nouradine Benzora, en plus vous êtes d'origine algérienne, hein, donc vous avez cette notion tout de même de double culture davantage que d'autres professionnels. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, Nouradine Benzora, si un enfant de parents divorcés aura plus de mal à fonder un couple stable ou pas ?
Alors, il est certain
que c'est la question que pose Suzanne.
Oui, tout à fait. Exactement. Je comprends tout à fait sa situation. Elle l'a bien dit tout à l'heure. C'est quand on a un enfant qu'on va se poser la question, est-ce que on va réussir ce qu'on n'a pas eu. Vous savez, quand on n'a pas eu quelque chose, c'est difficile. Il faut être créatif à ce moment-là pour que l'enfant ne subisse pas ce qu'on a subi ou d'être amené à divorcer parce qu'on n'est pas sûr de soi. Donc, du coup, je crois que c'est quand même important de souligner le fait que on peut réussir, il faut dépasser sa blessure pour pouvoir se réaliser avec ses propres enfants.
Merci beaucoup de nous avoir appelé Suzanne, et on l'entendait bien dans votre témoignage, à 56 ans finalement le souvenir de cette enfance avec des parents séparés restait bien vif. Vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons Ismaël qui nous appelle de Dakar. Bonjour Ismaël.
Bonjour. Je m'appelle Ismaël, j'appelle de Dakar.
Oui.
Pour intervenir dans l'émission, comme je dis tout à l'heure, je suis un enfant de divorcé, un grand homme aujourd'hui. J'ai plus de 50 ans.
Oui.
Alors, j'ai un vécu très pénible par rapport à ce divorce. Lorsque mes parents ont divorcé, la jeune garde, alors, il y a eu un mal divorce, comme je le dis. Alors, ce mal divorce-là se résume sur quoi? Des fois, les parents se séparent, l'un a envie que ça casse, l'autre pas. Et puis, moi, dans mon cas particulier, il y a eu le papa qui a tout fait mais pour que ma vie ne soit moins que rien. J'ai eu un choc la première fois que je l'ai rencontré, que je l'ai reconnu. J'avais dû avoir 8 ans.
Votre papa a déserté le foyer, si je comprends bien.
Il a divorcé.
Il a divorcé, mais vous parlez d'un mal divorce. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ce mal divorce, c'est l'irresponsabilité des parents à prendre conscience qu'ils ont laissé derrière un couple, un ménage, un enfant qui n'a rien à voir, qui n'est pas responsable de leur statut de divorcé, et que chacun devait pouvoir prendre la responsabilité de prendre la partie qui l'intéresse, qui l'incombe sur l'éducation de cet enfant.
Et vous-même aujourd'hui, Ismaël, vous êtes père de famille ou pas?
Vous êtes père de famille. J'ai connu moi aussi le malheur de divorcer.
Ah, vous aussi, vous avez dit...
Ah oui.
Et alors, est-ce que vous êtes parvenu à bien divorcer vous-même?
J'ai tout fait. J'ai divorcé avec deux garçons. J'ai amené à l'école catholique. Je les ai couvés pour faire l'éducation en privé, dans un appel à l'école publique. Mais j'avoue que il y a un problème de fond qui se pose, parce que cet enfant qui vit avec un monoparent a toujours un autre besoin. On se sent plus ou moins indifférent des autres, ce qui fait qu'il peut avoir un comportement de révolté qui peut se traduire par une scolarisation non convenable, parce que j'avoue que les miens étaient dans toutes les conditions nécessaires pour réussir les études. Et c'est de là que j'ai compris. J'ai commencé à comprendre que, franchement, divorcer est un grand, grand, grand problème pour les enfants. Moi, l'enfant de divorcé, père d'enfant de divorcé, j'ai vécu l'expérience et j'ai essayé de faire très attention pour que mes enfants ne souffrent pas.
Vos enfants vous ont donné l'occasion de réparer vos propres blessures.
Exact. mais je ne suis pas parvenu. Et là, j'ai mal. J'ai mal parce que le problème est plus profond qu'on ne le pense. Malgré que tu peux, à côté, subvenir aux besoins matériels en bien les encadrant, en donnant l'éducation.
Vous avez assumé. Vous avez assumé.
Oui. Honnêtement, intérieur, je sais que j'ai fait plus qu'assumer. À la fin, j'ai même plus ou moins révolté. Je me suis dit, non, il y a quelque part un problème.
Bien que ça soit très, très assumé socialement, hein. Dakar est une ville, il y a des sociologues qui travaillent sur le sujet à l'université Charenta Diop, c'est une ville où on a toujours beaucoup divorcé d'ailleurs, hein, de cette capitale africaine. Donc effectivement, ça ne pose pas de problème réellement social, mais effectivement, vous déballez ce qu'il y a dans l'intime des personnes. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Ismaël. Je vous rappelle le numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. On parle du divorce et puis des ruptures éducatives aussi et des problèmes que ça pose avec les enfants.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, mais entre nous là, entre les voisins, hein ?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Noureddine Benzora, vous publiez L'art d'être des parents séparés, c'est bien l'art, donc il y a quand même une vision assez positive dans votre livre, même si vous n'écartez pas loin de là toutes les difficultés qui ont été soulignées par nos auditeurs. Est-ce que pour certains enfants, vous citez des témoignages, pour certains enfants, le bilan du divorce est largement positif néanmoins ?
Alors, bien sûr, et heureusement, le bilan peut être positif. Je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même important, c'est quand les parents ont dépassé leur conflit pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Et en général, ça se passe bien, et heureusement qu'il y a quand même des enfants qui arrivent à suivre, puisqu'on parlait du scolaire, de ne pas être un petit peu perdu, de ne pas être trop déprimé, ou de ne pas être trop agressif, et heureusement.
Est-ce que le divorce peut aussi permettre de resserrer des liens entre chaque parent, puisque par définition, l'enfant est seul, ou en tout cas avec ses frères et sœurs, avec sa mère, et puis ensuite seul avec son père, quand la famille n'est pas recomposée, quand il n'y a pas un conjoint, en tout cas les premières années, souvent ça se passe comme ça.
Alors,
ça crée des liens un peu différents par rapport à un enfant qui a toujours été avec ses deux parents ensemble et qui les voit la plupart du temps ensemble.
Je vais vous citer un exemple. C'est cette petite fille, après le divorce de ses parents, qui rentre d'un week-end chez sa maman et qui lui dit « Maintenant, papa, il commence à parler ». Donc c'est quand même des surprises agréables.
Ah oui, parce que le père est seul avec sa fille, il est bien obligé d'avoir une conversation.
Exactement. Et donc je pense que ça recrée quelque chose de l'ordre du lien avec le parent qui, par habitude peut-être, ou autrefois, parce que c'était organisé de cette façon, où il n'avait pas cette espèce de relation avec ses enfants, qui tout d'un coup est amené à changer.
Mais on en parle assez peu de ça finalement, de cette relation un peu particulière, obligatoire finalement, du parent seul avec ses enfants.
Oui, alors ça ne veut pas dire que tout le monde y arrive, parce que ça crée beaucoup de choses, surtout dans le schéma où l'enfant est gardé par sa mère, le papa parfois, s'il n'est pas habitué à participer aux tâches ménagères, ou à gérer ce qui est de l'ordre de ce qui entoure l'enfant, est parfois un petit peu dépassé. C'est pour ça que souvent dans les histoires de garder ses enfants, il y a nécessité quand même à savoir comment s'y prendre aussi, sur le plan vraiment matériel.
Dans le cas des familles recomposées, évidemment, plusieurs conceptions, pratiques éducatives vont se télescoper. Alors là, comment redonner une harmonie de règles éducatives ?
Alors, là aussi, je vais quand même vous citer un exemple où c'est quand même un couple qui a recomposé, comme on dit, sa nouvelle famille. Madame avait quand même trois enfants et monsieur avait deux enfants, qui étaient à peu près du même âge. Et donc, ils étaient organisés de telle façon à ce qu'il y avait un week-end où ils étaient tout seuls, le couple. Et puis, le reste du temps, ils passaient de 2 à 7. Et le problème qui s'est posé, c'est que les enfants de madame avaient été élevés dans une résidence ou étaient quand même dans un milieu un peu bourgeois, alors que les enfants de monsieur avaient une éducation un peu cité, avec un langage
plus populaire.
Et donc du coup, l'idée qu'on s'en fait, du coup, quand ils se rencontraient le week-end, ça faisait quand même des explosions. Et madame était horrifiée que ses enfants puissent entendre un discours. Oui.
Quelles sont les solutions dans ces cas ?
Alors, les solutions, celles qu'on a abordées, c'est que chacun gère ses enfants. Parce que finalement, le conflit, c'était chacun se reprocher à l'autre de ne pas intervenir auprès des enfants. Donc, on a fait une espèce d'éducation alternée où finalement, un des parents gérait ses propres enfants et l'autre les gérait. Et puis, il y avait des moments où ils étaient aussi ensemble pour recréer quelque chose de nouveau.
En conclusion, finalement, vous le dites beaucoup dans votre livre, les éléments essentiels pour conserver un espace d'éducation conjoint de ses enfants, c'est vraiment le dialogue. Mais alors, comment on dialogue malgré des différences de point de vue, si on devait redonner vraiment les points?
Écoutez, moi je pense que le dialogue, si en général, aide surtout quand il a existé déjà avant. Ça aide. Mais sachez une chose, c'est que quand on est en conflit, le dialogue est quand même utilisé à des formes par moments malheureusement un peu perverses. Ça devient un langage pervers où on va essayer de manipuler l'autre ou de l'attaquer ou de l'agresser. Alors c'est justement, il y avait quelqu'un qui me disait, mais comment je peux faire? Parce que moi je suis plein de rage, etc. Comment je fais pour pouvoir continuer à parler au père de mes enfants? Alors je pense qu'il y a quand même, je reviens vers l'idée du deuil, il faut savoir arriver à se décentrer de cela. C'est facile, c'est une phrase simple, mais il faut le faire. Et je crois qu'il faut se faire aider dans ces cas-là. Quand il y a une rage, qu'on peut pas dialoguer avec l'autre, je crois qu'il ne faut pas hésiter à aller voir une conseillère conjugale, un psy, ou même quelqu'un de neutre, parce qu'il faut se méfier aussi des amis qui parfois mettent de l'huile sur le feu, ou des parents qui vont justement ne pas rater l'occasion de dire « tu vois, je te l'avais bien dit ».
Nouredine Benzora, merci pour tous ces conseils. Vous êtes psychiatre, thérapeute familial, et vous publiez « L'art d'être des parents séparés » chez Albin Michel. Merci à vous les voisins, les voisines, pour vos témoignages. On a eu beaucoup d'enfants, finalement, de parents séparés.
En collaboration avec Colette
Barou-Chabanol. Exactement. Merci à toute l'équipe. Thomas Delpech-Caminéran, Pierre Chaffanjon, Raphaël Lazizi. Demain, 7 milliards de voisins. Je laisse le micro à Charlie Dupiot.
Merci. Présidentiel.